c'est vraiment ton cœur que nous désirons sentir battre en nos cœurs. Père d'amour, Père de grâce, Père qui est l'infinie tendresse, le Dieu de toute consolation, notre espérance, notre amour. Que tu nous remplisses ce soir de ton esprit et que ta parole nous parle jusqu'au plus profond de nous-mêmes, que tu t'adresses à nos consciences et à nos cœurs et que dans ce soir du 1er août où nous venons de rappeler cette fondation d'un pays où les hommes connaissaient encore autrefois la crainte de Dieu, qu'en ce soir, nous puissions nous aussi être renouvelés dans cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Que tu nous donnes une intelligence plus grande que celle que tu as départie aux bêtes, mais que déjà ce soir, nous soyons assez humbles pour reconnaître qu'en bien des domaines, les bêtes nous enseignent. Amen. Le thème de nos rencontres du soir a été annoncé par un texte qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 12e, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Nous allons remettre ce texte dans son contexte, et nous voyons que dans ce chapitre 12 du livre de Job, ce patriarche tellement éprouvé répond au discours de ses trois amis qui ont essayé de lui expliquer le pourquoi de son épreuve et qui n'ont fait que le blesser davantage en voulant le consoler. Et Job, fatigué particulièrement par le discours de Tsophar de Naama, se rit de sa prétendue science. Et il veut faire comprendre à ses consolateurs fâcheux que les animaux mêmes et la création inanimée possèdent la sagesse dont ces hommes se vantaient. Et c'est là que nous lisons ces paroles. Interroge les bêtes, verset 7, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et l'esprit de toute chair d'homme. Mes amis, en ces temps où tous ensemble les hommes sont devenus stupides par leur science, comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 10 de son livre, au verset 8e, il peut être utile, croyons-nous, de nous laisser instruire par les animaux. Car, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 1er de son livre, le bœuf, lui, connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Mais l'Éternel dit, « Mon peuple ne me connaît pas, mon peuple n'a point d'intelligence. » Et Jérémie nous dit encore, dans un autre passage, au chapitre 8 de son livre, au verset 7, « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Et pourtant, comme vous le savez, vous qui lisez l'Écriture, Dieu avait instruit l'homme plus que les bêtes de la terre. C'est Élihu, le plus jeune des amis de Job, le quatrième, et qui fait cette réflexion au chapitre 35 de ce livre de Job. Nous lisons au verset 9. On crie à cause de la multitude des oppresseurs. On appelle au secours à cause de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit où est Dieu, lui qui m'a fait. Lui qui inspire des psaumes pendant la nuit. Lui qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Il nous donne la sagesse plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors on crie, mais il ne répond pas à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Puisqu'il nous est dit que Dieu avait donné à l'homme plus d'intelligence qu'aux bêtes de la terre, qu'est-il arrivé à l'homme pour qu'il soit tombé si bas, pour qu'on lui cite en exemple les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, lui qui avait été chargé de dominer sur tout les animaux, tu domineras sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles et sur tous les animaux de la terre. Lisons-nous dans Genèse 1, verset 26, au moment où Dieu créa les animaux au cinquième et au sixième jour. Eh bien, ce que nous savons, c'est que l'homme n'a pas persévéré dans la voix du Seigneur. Nous rejoignons ici une révélation que nous verrons dans l'Épître aux Romains, Dieu voulant, lundi, lorsque nous étudierons la fin du chapitre premier de cet Épître aux Romains. Ayant connu Dieu, lisons-nous, l'homme ne l'a pas glorifié comme Dieu et il est tombé dans l'idolâtrie. Nous lisons ce texte qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés, dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, puis des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, ces animaux qui avaient été créés pour le bonheur et le service aussi de l'homme, ces animaux que les hommes devaient dominer, eh bien, sont devenus des dominateurs. On les a élevés à la dignité de Dieu. C'est là que l'homme est tombé, dans cette idolâtrie. Faisant de ces animaux qu'il devait dominer, il en a fait des dieux qu'il s'est mis à adorer. Voilà le drame. Qui sait qu'aujourd'hui, les animaux qui n'ont pas renié Dieu ont quelque chose à dire à l'homme. Et ce soir, dans une simple introduction, je me bornerai à souligner quelques raisons pour lesquelles les bêtes peuvent encore nous instruire. Quelles sont les raisons qui me permettent de dire que les bêtes peuvent encore nous instruire? La première que je citerai, c'est que les bêtes ont Dieu pour créateur. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Père de toutes ses créatures. Jésus lui-même, quand il parlait des oiseaux du ciel, disait que leur Père céleste les nourrit. Leur Père céleste les nourrit. Les animaux du ciel ont Dieu pour créateur, et non seulement les animaux du ciel, les oiseaux du ciel, mais toutes les bêtes des forêts ou des champs sont les créatures de Dieu. Et il les a toutes bénies. Quand vous relisez le chapitre premier de la Genèse, vous voyez que Dieu a béni toutes ces créatures. Il les a appelées à l'existence et il les a bénis. De sorte que ces créatures qui ont été bénies peuvent être encore pour nous en bénédiction. Et nous aurons l'occasion de voir que Dieu a souvent employé une de ces créatures pour le bien suprême de l'homme. Ainsi, l'ânesse de Balaam qui reprend la folie du vieux prophète, vous connaissez cette histoire. Le coq qui réveille la conscience de Pierre dans la nuit même où par trois fois il renia son maître, tout à coup il entendit le coq chanter et à ce moment-là Pierre rentre en lui-même après le chant du coq et pleure amèrement sur son péché et sur sa faiblesse. Une seconde preuve que je soulignerai ici, que Dieu peut employer les bêtes pour nous parler, c'est que toutes ces bêtes, tous ces animaux, il les a créés pour sa gloire. Au psaume 72, au verset 19, nous lisons que toutes ses œuvres, et le monde animal en particulier, célèbre la gloire de Dieu. De sorte que dans tous les animaux de la création, nous pouvons voir un rayon de cette gloire de Dieu. Une troisième raison qui nous permet d'affirmer que Dieu peut nous instruire par les bêtes, c'est que lors même que les animaux ont été assujettis à la vanité à cause du péché de l'homme, eh bien, ces animaux eux-mêmes n'ont pas péché. C'est vrai. Vous connaissez le péché des vaches? Le péché n'est pas dans le cœur des vaches, mais il est dans notre cœur. Et c'est cela qui est très grave pour nous. Mais les animaux n'ont pas renié leur créateur. Et c'est pourquoi Dieu les prend encore souvent à témoin lorsqu'il veut parler à la conscience d'un peuple ou à la conscience des individus. Une quatrième raison, c'est que Dieu n'a pas rompu son alliance avec les bêtes des champs ou des forêts. J'aime beaucoup relire le psaume 50, le verset 10e, où le Seigneur dit que tous les animaux des champs, comme ceux de la forêt, sont à lui, verset 10. Tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Je disais que Dieu avait souvent employé des animaux pour servir l'homme. Je pense aussi au corbeau d'Élie qui, pendant cette grande sécheresse qui sévissait sur Israël, ont été chargés par Dieu de nourrir le prophète. Et vous savez quel menu ils apportaient aux prophètes le matin et le soir. N'en déplaise aux végétariens, Élie recevait de la viande le matin et le soir. Et les corbeaux ne mangeaient pas ces provisions. Ils apportaient fidèlement cette nourriture au prophète Élie. Et vous pourriez vous rappeler d'autres histoires bibliques où les animaux entrent en jeu pour le bien des hommes. Tous sont à lui. Et Dieu leur commande ce qu'il veut et ils obéissent. Nous devrions là apprendre nous aussi à obéir aussi rapidement et aussi fidèlement que les animaux. Nous lisons aussi que tous mettent leur espoir en lui pour qu'il leur donne leur nourriture en son temps. C'est le psaume 104 que nous avons cité l'autre soir dans notre préparation. Psaume 104, verset 27e. C'est un merveilleux psaume qui nous parle de cette dépendance des animaux. Verset 27, oui. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés, tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face du sol. Nous voyons donc que les animaux vivent dans cette complète dépendance de ce Père des cieux que nous avons tant de peine à connaître. et auquel nous faisons si peu confiance dans nos difficultés. Ce qui me permet aussi de dire que Dieu peut nous enseigner par les animaux, c'est que au déluge, alors qu'il décide de retirer son esprit et son souffle de toute créature, il conserve cependant toutes les espèces des animaux qui existent et qui entrent dans l'arche par couple. Relisez Genèse 6 et 7 et vous verrez comment les animaux furent sauvés, vinrent d'eux-mêmes dans l'arche, mus par leur instinct de conservation, alors que les compagnons de Noé, les hommes qui vivaient en son temps, n'ont pas été impressionnés par la prédication de ce patriarche. Ils se sont moqués de lui, alors que pendant 120 ans, il construisait cette arche qui servit finalement à la préservation de ces espèces animales. Et combien d'hommes et de femmes furent sauvés? 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, alors que les animaux furent préservés de la catastrophe. Puis, je vois encore une 7e raison qui nous permet de croire que Dieu a quelque chose à nous enseigner par les animaux. Quand Adam et Ève eurent péché et furent chassés du paradis, qu'est-ce que Dieu fit? De quoi se servit-il pour recouvrir Adam et Ève, qui n'habiteraient plus dans ce lieu de délices et de charme, mais qui devraient vivre sur une terre qui avait été maudite? Il prend des animaux, et c'est ainsi que la mort a été introduite dans le monde à cause du péché d'Adam. Ces animaux sont sacrifiés pour que leur peau puissent revêtir ce couple pécheur. Et là déjà, vous avez en image ce que l'Évangile allait nous révéler, c'est que pour que nous puissions subsister devant Dieu et en sa présence, il faudrait que nous aussi, nous soyons couverts, non pas de la peau d'un autre, mais couverts par le Christ lui-même, l'agneau qui a été immolé pour nous, et nous sommes appelés, si nous voulons subsister devant Dieu, à revêtir le Christ. C'est ainsi que Paul dit aux Romains, vous avez revêtu le Christ. Si vous vous souvenez aussi des récits de la Genèse, déjà de l'Exode, du Lévitique et enfin de tout le code mosaïque, vous verrez que ce sont aussi les animaux que Dieu donne aux hommes pour l'expiation de leurs péchés. Le salaire du péché des hommes, c'était la mort, mais pour épargner leur vie, Dieu leur a donné les animaux pour mourir à leur place, leur enseignant ainsi que Dieu ne passe pas l'éponge sur le péché, il faut qu'il y ait expiation. Et c'est la grande vérité biblique, sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de rémission de péché. Et Dieu donne à l'homme, et en particulier au peuple d'Israël, les animaux comme substitut, en attendant quel substitut définitif? Jésus, le véritable agneau de Dieu. Une autre raison, c'est que Dieu s'est servi des animaux pour enseigner au peuple d'Israël, aux descendants d'Abraham, la différence entre ce qui était pur et ce qui était impur. Vous avez un chapitre merveilleux que nous aurons l'occasion d'étudier, qui se trouve dans le Lévitique, c'est le chapitre 11e, où nous trouvons ce qui caractérise les animaux purs des animaux impurs. Ceux que l'homme pouvait manger, pouvait consommer, et ceux dont il devait absolument s'abstenir. Je dirais encore que nous trouvons dans la Bible des ordres très précis que Dieu a donné à l'homme pécheur concernant les animaux. Et je voudrais simplement vous rappeler quelques-uns de ces ordres. D'abord, le repos que Dieu donne à l'homme, il est étendu aux animaux. Exode 23, verset 12. Deutéronome 5, verset 4. Il demande de ne pas museler le bœuf pendant qu'il foule le grain. Deutéronome, verset 25, chapitre 25, verset 4. Il demande aussi de ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. C'est quelque chose qui est contre nature. Exode 23, verset 19. Et les égards pour un animal domestique sont rattachés à la vraie piété d'un enfant de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il sera dit au chapitre 12 que le juste prend soin de sa bête, verset 10e, tandis que les entrailles du méchant sont cruelles. Et simplement, quand on observe un homme et son attitude vis-à-vis d'un animal, eh bien, on peut déjà connaître pas mal de choses de son caractère, de ce qu'il est, et aussi peut-être de son christianisme. La manière dont un homme traite ses bêtes. Il est dit aussi que lorsque un homme voyait l'âne de son ennemi ployé sous le fardeau, il devait venir en aide à cet âne. Il devait donc le soulager. Il y avait donc des mesures extrêmement humaines qui étaient prescrites pour les animaux. Et je dirais enfin que Jésus, quand on arrive dans les évangiles, prit souvent en exemple les animaux pour illustrer certaines de ses leçons. Il suivait ainsi l'exemple de l'Ancien Testament, de la loi, des psaumes, de Job, du livre des Proverbes et des prophètes. Et une dernière pensée, c'est que le Seigneur, par son sacrifice, a racheté les animaux. Eux aussi connaîtront les fruits de la rédemption dans le règne du Seigneur. Vous savez que au début, dans la création, qu'est-ce que les animaux mangeaient ? De l'herbe. L'herbe avait été donnée à tous les animaux. Donc, on peut dire qu'il n'y avait que du bétail quand Dieu a créé les animaux. C'était du bétail qui mangeait de l'herbe. Et hélas, après la chute, eh bien, nous voyons qu'il y a eu tout un désordre dans la création et que les animaux sont devenus féroces et des ennemis pour l'homme. Mais un jour, par le sacrifice du Christ, quand il reviendra en vertu de son œuvre, toute la création sera délivrée de ce joug de la corruption auquel elle a été assujettie par le péché de l'homme. Et à ce moment-là, eh bien, il est dit que la condition des animaux sera changée. Vous connaissez bien ces passages que je vous cite simplement pour un peu orienter notre étude de ces soirées. Ésaïe chapitre 11, nous avons cette vision merveilleuse de ce qui se passera quand le Messie sera là. Verset 6 du chapitre 11, le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et, que disons-nous, un petit garçon les conduira. La vache auront un leur petit une même couche et le lion mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spie. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma sainte montagne, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est merveilleux de penser que notre pauvre monde d'aujourd'hui, eh bien, va pourtant connaître cette glorieuse libération. Vous avez encore un autre texte au chapitre 65 d'Ésaïe, au verset 25e, il nous est répété que le loup et l'agneau auront un même pâturage, que le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte de l'Éternel. Donc, nous voyons que les animaux cesseront un jour d'être un sujet de frayeur pour l'homme. Alors, disons pour terminer cette introduction générale à nos messages du soir, que nous trouvons dans la Bible 128 espèces d'animaux. Et leur classification dans l'Écriture est des plus simples. Moïse et à sa suite, tous les Hébreux les ont divisés en quatre catégories que nous étudierons. Il y a les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Alors dans les jours qui viennent, à l'école de Jésus, à l'école de Moïse, du psalmiste, et des prophètes, nous apprendrons les plus importantes leçons que nous donnent les animaux, qui sont des créatures de Dieu et que Dieu aime, même si l'homme les oublie. Et je pense à Jonas qui, absolument centré sur lui-même, oubliait qu'à Ninive, il y avait beaucoup d'animaux qui auraient péri dans cette destruction si le jugement avait atteint cette ville. Et je vous lis ce texte dans Jonas, chapitre 4, où Dieu reprend son prophète et qui se plaint à cause du ricin et qui avait cru en une nuit et qui avait été desséché en peu de temps, Jonas, au lever du soleil, se plaint et demande la mort pour son âme, en disant, verset 9, « La mort m'est préférable à la vie. » Or Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » L'Éternel lui dit, « Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Qui sont ces êtres humains qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche? Ce sont des enfants et des bêtes en grand nombre. Voilà une leçon que Dieu nous donne, lui, à pitié des bêtes. Eh bien, que Dieu nous enseigne dès ce soir et nous prépare à recevoir quelques leçons des bêtes de la terre. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Nous l'ont prié. Ô Dieu, tu es vraiment le Créateur de toutes choses. Et si tu as amené à l'existence tous ces êtres et qui nous entourent, c'est toujours dans des actes d'amour. Et nous voulons nous souvenir que tu aimes aussi les bêtes. Et nous voulons nous rappeler que les animaux n'ont pas brisé l'alliance avec leur Créateur. Et nous voulons te demander que tu nous donnes de nous laisser instruire par ce monde que nous connaissons encore si peu et qui pourrait nous enseigner tant de leçons profitables. Nous pensons à ce que nous pourrions recevoir comme leçon de la fourmi qui travaille en été pour se procurer les vivres nécessaires pour l'hiver. Nous pensons aux damans, ce peuple sans puissance qui a assez d'intelligence pour faire sa demeure dans les rochers afin d'être préservé des attaques d'autres animaux. Nous pensons aussi à d'autres bêtes qui doivent nous enseigner. Et nous te demandons que déjà dans l'éveil de cette nuit, nous puissions recevoir quelques instructions profitables pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Les amis, nous allons lever encore une fois les yeux vers le Seigneur. Nous nous attendons à ta bénédiction. Toi qui nous as dit que nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ, que nous puissions vivre une heure de grâce et que tu nous donnes ce soir le goût de ta parole, que tu ouvres nos cœurs à une compréhension plus profonde de tout ce que nous pouvons y lire et qu'aucune de ces pages ne nous laisse indifférents, afin que nous soyons, par cette écriture divinement inspirée, corrigée, instruite, rendue propre à toute bonne œuvre dans ce monde où tu nous laisses pour que nous y soyons tes témoins jusqu'à ce que tu reviennes. Exauce-nous et louange à toi de ce que tu nous as exaucé. Amen. Nous continuons de traiter notre thème « Interroge les bêtes et elles t'instruiront ». Thème que nous avons trouvé dans le livre de Job au chapitre 12 et au verset 7e. Et je lirai simplement un texte dans le chapitre 11 du Lévitique, chapitre que je voudrais que vous lisiez entièrement quand vous serez solitaire, et un verset dans le chapitre 14 du Deutéronome, chapitre aussi que je vous invite à lire pour vous-même. Vous serez saints, dit l'Éternel, car moi, je suis saint. Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi toutes les nations de la terre. Mes amis, hier soir, dans notre introduction générale concernant l'enseignement que nous pouvons recevoir des bêtes, nous vous avons mentionné quelques raisons pour lesquelles les animaux peuvent encore nous instruire aujourd'hui. Avant de découvrir pour notre profit les leçons que peuvent nous donner certains animaux, je voudrais vous exposer encore quelques vérités générales qui seront, je le crois, capables de nous aider à mieux comprendre certains chapitres de l'Ancien Testament au sujet de quatre grandes catégories d'animaux dont nous parle la Bible. Je vous disais hier soir que l'Écriture sainte nous présente 128 espèces d'animaux qu'elle répartit très simplement en quatre catégories que nous retrouvons toujours mentionnées au travers de toute la Bible. La première de ces catégories est composé des quadrupèdes. La seconde, des animaux aquatiques, disons simplement des poissons. La troisième, des animaux aériens, dans lesquels on trouve deux sections, les bipèdes, c'est-à-dire les oiseaux, et puis les petits animaux à quatre pattes ou plus que nous appelons les insectes ailés, les maringouins y compris. Puis nous avons une quatrième catégorie d'animaux, les reptiles. Et ce mot, je voudrais le préciser, ne comprend pas seulement les animaux sans pattes qui rampent sur leur ventre comme le serpent, mais encore ceux qui ont des pattes si petites qu'ils apparaissent ramper comme les lézards, comme les rats, les souris et les autres petites bêtes qui se traînent sur la terre ou qui dansent dans la cuisine. Pour la bonne compréhension de notre sujet, je voudrais vous rappeler ceci. Premièrement, tous les animaux ont été créés par Dieu. Et tous furent trouvés bons par le Créateur au cinquième et au sixième jour de la création, et Dieu les a tous bénis. Souvenez-vous toujours de cela. Secondement, souvenez-vous aussi que l'homme, créé à l'image de Dieu, devait dominer toutes ces catégories d'animaux auxquels lui-même avait donné un nom, selon Genèse chapitre 2. Troisièmement, souvenez-vous qu'avant la chute, il n'y avait aucune bête nuisible, sauvage ou venimeuse. Et tous ces animaux avaient une nourriture commune, donnée par leur Créateur. Et maintenant, souvenez-vous aussi que comme la qualité de la vie humaine a été modifiée par la chute, par le péché de l'homme, la vie animale, elle aussi, a subi des changements profonds, conséquence de la chute, à un tel point que l'apôtre Paul, dans le chapitre 8 des Romains, nous dit que toute la création, créée belle et bonne, a été assujettie à la vanité à cause du péché d'Adam. Mais nous savons aussi qu'elle sera délivrée, cette création qui aujourd'hui encore est en travail, souffre, et les animaux aussi souffrent. Eh bien, la création tout entière, et les animaux aussi, seront délivrés de ce joug de la corruption quand le Seigneur reviendra en gloire et manifestera la gloire des enfants de Dieu. Malgré le péché, comme vous le savez, Dieu n'a pas abandonné l'homme et en attendant sa rédemption totale, il a employé les animaux pour l'instruire et l'amener, entre autres, à distinguer le bien du mal et à discerner la volonté divine afin qu'il l'accomplisse. Les animaux, Dieu s'en sert pour nous instruire. Et c'est ce qui explique la distinction qui a été faite après la chute entre des animaux que vous appelez purs, selon l'Écriture, et des animaux qui sont appelés impurs. Et l'on peut dire que déjà au temps de Noé, cette distinction apparaît. Dans le chapitre 7 de la Genèse, vous voyez que Noé reçoit l'ordre du Seigneur de faire entrer dans l'arche combien de couples d'animaux purs? 7. Et combien de couples d'animaux impurs? 1. Et nous pensons que s'il demande qu'il y ait 7 couples d'animaux purs, c'est aussi en prévoyant les sacrifices que Noé ferait à la sortie de l'arche pour bénir le Seigneur. On ne pouvait pas sacrifier un animal impur. Il ne pouvait choisir que parmi les animaux purs pour offrir ce sacrifice après cette merveilleuse délivrance quand ils sortent de l'arche. Mais si on voit que cette distinction entre animaux purs et impurs existait déjà au temps de Noé, nous constatons que c'est Moïse qui nous donne alors un enseignement complet et le moyen mis à la portée de tout Israélite pour reconnaître un animal pur d'un animal impur. Et c'est là que je vous conseille de lire, nous ne voulons pas le faire ce soir, de lire à ce sujet le chapitre 11 du Lévitique et le chapitre 14 du Deutéronome qui nous donne tous les enseignements que je vais essayer de vous résumer pour votre profit. Disons tout de suite que dans la loi de Moïse, la distinction entre animaux purs et animaux impurs regardait premièrement et avant tout l'alimentation de l'homme. Les animaux purs étaient ceux dont l'Israélite pouvait manger la chair. Les animaux impurs, ceux dont il devait absolument s'abstenir. Mais l'inscription pour un animal sur la liste des animaux impurs n'entraînait pour lui aucun discrédit, aucune dépréciation et à plus forte raison, aucun mépris. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Prenez par exemple l'aigle et dans la liste des animaux impurs, le lion et dans la liste des animaux impurs, de même que le cheval. Et pourtant, à travers les pages de l'Écriture, comme nous allons le voir dans nos soirées prochaines, ces animaux qui sont classés comme impurs sont cependant, en beaucoup d'endroits, cités avec leur qualité et leur service. Et l'Écriture les donne même comme symbole de vertu morale. L'aigle dans les cieux, le lion, roi des animaux, et d'autres encore. En dehors donc de l'alimentation, les Hébreux pouvaient utiliser les animaux impurs pour divers services. Et je citerai ici l'âne. L'âne est dans la liste des animaux impurs, mais vous voyez les Israélites constamment avec leur âne, comme aussi avec leur chameau. Le chameau aussi est dans la liste des animaux impurs, mais pour les Hébreux, c'était les voitures de leur temps. Ils étaient transportés par ces animaux, c'était les bêtes de somme qu'employaient les Hébreux. Alors, quel but Dieu poursuivait-il en faisant désigner certains animaux comme étant impurs et d'autres comme étant purs? Eh bien, il voulait enseigner à son peuple qu'il appelait à l'adorer en esprit et en vérité. Il voulait enseigner à son peuple ce qu'était la sainteté et ce qu'était la séparation de l'idolâtrie. Vous savez, nous l'avons mentionné hier et ce matin aussi, en passant, l'homme en chute, après s'être déifié lui-même, a élevé à la divinité les animaux et adorait les animaux. Je ne sais pas ce que vous pensez aujourd'hui. Certains théologiens ont cru que Dieu avait décrété certains animaux comme étant impurs, justement parce que les nations, s'étant éloignées de Dieu, étant devenues païennes, révéraient ces animaux comme étant des divinités. Et alors Dieu aurait interdit aux Israélites de manger ces bêtes-là. Mais nous voyons que les païens n'ont pas seulement divinisé des animaux impurs, le bœuf par exemple, qui est dans la liste des animaux purs, était adoré en Égypte. De sorte que la raison n'est pas là, nous ne le pensons pas. Alors, quelle est vraiment la raison pour laquelle Dieu a voulu faire ces distinctions? Bien, il veut enseigner à son peuple ce qu'est la séparation morale. Et voyez-vous, en interdisant de manger certaines nourritures, cela allait aider le peuple d'Israël à être séparé de tous les autres peuples qui avaient fait des animaux même leur Dieu. Car, vous le savez, c'est à la table que se créent surtout les relations. Et quand il vous est interdit de toucher à certaines nourritures, il y a des gens que vous ne pouvez plus recevoir. Et il y en a d'autres qui ne voudront pas venir manger chez vous. Car c'est à la table que se créent la plupart des relations. Et c'est ainsi que Dieu aidait son peuple à être séparé dans ce monde, à être une nation qui lui appartienne en propre, une nation qui n'ait pas les mêmes usages et les mêmes coutumes que les peuples idolâtres. Et cela, nous devons nous en souvenir. Donc, si Dieu fait cette distinction entre animaux purs et animaux impurs, c'est pour donner à l'homme l'occasion de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est la première raison. Enseigner à l'homme qui veut vivre dans la crainte de Dieu qu'il doit être séparé de certaines choses et qu'il doit poursuivre les choses que Dieu lui désigne comme étant celles qui sont pures. La deuxième raison, c'est une question d'hygiène. C'est la santé du peuple que Dieu avait en vue. La santé publique d'Israël. Et c'est frappant de voir que ceux qui étudient ces lois du Lévitique, des savants éminents, reconnaissent aujourd'hui encore que les prescriptions mosaïques concernant ces animaux favorisaient la santé du peuple d'Israël en Orient, dans ces pays chauds. Par exemple, cette interdiction de manger du sang. Vous savez tous que c'est dans le sang que circulent les germes d'un grand nombre de maladies infectieuses. Et cette interdiction de manger certains animaux, vous savez que certains animaux contiennent des parasites. Et Dieu veillait sur la santé de son peuple. Il ne voulait pas un peuple malade. Il lui avait dit qu'il le garderait de toute maladie. Mais pour être gardé de toute maladie, il y a des choses dont on doit nécessairement s'abstenir dans l'alimentation. Et je dirais ici que pour n'avoir rien voulu changer à leurs habitudes européennes, par exemple manger des viandes fortes, des graisses, des boissons fermentées, à cause de cela, on a constaté que plusieurs Européens qui ont voulu maintenir leurs coutumes européennes sont morts lorsqu'ils ont été en Afrique et aux Indes en particulier. Ils n'ont pas voulu changer leur manière de vivre et ils sont morts à cause de cela. Je ne vais pas entrer dans le détail, je ne vais pas développer le bien fondé non plus des prescriptions mosaïques, mais je voudrais simplement vous signaler ce soir les règles que Dieu a données à son peuple pour reconnaître un animal pur d'un animal impur, et puis je voudrais vous laisser méditer sur l'application symbolique que le Seigneur nous donne et qui est toujours valable pour nous. Prenons maintenant la première catégorie, les quadrupèdes. Sont purs, selon le chapitre 11 du Lévitique et le chapitre 14 du Deutéronome, qui ne contredit en rien le chapitre du Lévitique, sont purs ceux qui ont la corne du pied complètement fendue et qui rumine. Souvenez-vous toujours de cela. Parmi les quadrupèdes, sont purs ceux qui ont le pied complètement fendu et qui rumine. Donc, il y a là deux conditions. Tous les animaux qui manquent de ces conditions ou de l'une d'elles, parce qu'il y a des animaux qui ruminent mais qui n'ont pas le pied fendu. Eh bien, s'il y a un animal qui manquait d'une de ces conditions, il était impur. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire à nous? Vous voyez que c'était très facile de distinguer, mais enfin, il fallait observer ces deux règles. À quoi vous fait penser l'animal qui rumine? Oui, ben c'est un animal qui rumine. Mais spirituellement, qu'est-ce que c'est ruminer? C'est repasser ses soucis dans son cœur. C'est nous nourrir d'abord de la parole. L'animal qui rumine, il s'est d'abord nourri. Puis, ensuite, eh bien, il a été formé par Dieu d'une certaine manière, de telle sorte qu'il peut faire remonter toute cette nourriture et la mâcher à nouveau. Eh bien, mes amis, là, spirituellement, nous devons être des ruminants. Est-ce que vous êtes d'accord d'être des ruminants? Parce que vous écoutez la parole, vous recevez un message, mais pour qu'il vous profite, qu'est-ce qu'il faut après? Il faut le ruminer, il faut que cela revienne, il faut que cela remonte dans votre cœur. Et c'est comme cela qu'on s'en imprègne. Donc là, nous avons une grande leçon que nous donnent déjà les animaux, les ruminants. Mais attention, ah mais moi, je me nourris, je me gave de la parole et je la rumine et je m'installe bien et j'ai des très belles pensées. Ah mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu as le pied fourchu? Est-ce que tu as le pied fendu? Alors, qu'est-ce que c'est que le pied fendu? Ça vous fait penser à quoi le pied? À la marche. Hein? Avoir le pied fendu, c'est pour pouvoir marcher. Il ne suffit pas d'être des ruminants. Il faut aussi avoir des pieds pour marcher. Et alors, on distinguait ainsi quel était l'animal pur. Bien, mes amis, que nous n'ayons pas seulement ce besoin de lire la parole, ce besoin de la méditer, de nous nourrir, mais qu'ensuite nous ayons une marche qui corresponde au désir du Seigneur. Que dans ce monde, on nous voit marcher comme des chrétiens. J'ai souvent dit, en cette fin de siècle, on a marché sur la lune, mais on n'a pas appris à marcher sur la terre comme des chrétiens. Et on se glorifie d'avoir marché sur la lune et on ne sait pas marcher sur la terre. Eh bien, que nous ayons une belle démarche, que nous soyons comme Jésus qui marchait. Il est dit dans ce chapitre premier de Jean que quand les disciples de Jean-Baptiste ont vu Jésus marcher, ils n'ont pas pu s'empêcher de le suivre. Ils ont quitté le Baptiste et ils l'ont suivi. Car Jean-Baptiste, en voyant Jésus marcher, a dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et les disciples, Jean et André, ont suivi Jésus qui s'est retourné et qui leur a demandé « Qui cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez et voyez. » Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Et où les conduisit-il, ce Jésus? Dans le sein du Père. Et ils vécurent là un jour qui valait mieux que mille ailleurs. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ont une marche telle sur la terre, que ce soit tout un témoignage. Parce que si vous êtes seulement des ruminants, vous n'irez pas loin. Vous devez avoir les deux qualifications. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne veux pas allonger ce soir, mais je voudrais juste vous donner quelques jalons qui vous permettront de mieux comprendre ces enseignements faits par les animaux. Deuxième catégorie, c'est les poissons. Alors, comment pouvait-on reconnaître un poisson pur d'un poisson impur? Nous sommes donc dans la catégorie des animaux aquatiques. Eh bien, sont purs, selon ces chapitres, les poissons qui avaient des écailles et des nageoires. De nouveau, deux choses. Des écailles et des nageoires. Sont impurs, donc, tous les cétacés. Alors, à quoi nous fait penser les nageoires et à quoi nous fait penser les écailles? À quoi servent les nageoires? À se mouvoir dans l'eau et à remonter le courant. Eh bien, nous les chrétiens, nous devons avoir des nageoires. C'est-à-dire, nous devons avoir la possibilité de nous mouvoir dans ce monde, dans ce courant, nous n'avons pas à le suivre, mais nous avons à le remonter. Nous avons cette possibilité. Les animaux nous donnent un enseignement, les animaux purs ont des nageoires, les animaux aquatiques, mais ils ont aussi des écailles qui leur permettent de résister à l'action de cet élément liquide. Et nous aussi, nous sommes dans ce monde, et nous devons avoir ce qui représente ces écailles, nous devons être recouverts de Christ pour que nous ne subissions pas l'influence du monde qui nous entoure. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons avoir cette possibilité de supporter les pressions du monde sans que le monde nous pénètre. Ce qui doit nous pénétrer, c'est la vie de Jésus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà ce que nous enseignent les poissons purs. Mais nous avons à être, si j'ose dire ainsi, comme des éponges quand on parle du Seigneur. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Quand on plonge une éponge dans l'eau, elle est dans l'eau, mais en même temps, elle absorbe l'eau. Eh bien, si vous demeurez dans le Seigneur demeurera en vous comme l'eau dans l'éponge. Et c'est cela qui est merveilleux. Vous ne serez jamais desséchés. Soyons dans le Seigneur et le Seigneur sera en vous. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Passons à la troisième catégorie. Les animaux aériens, donc les oiseaux et les insectes ailés. Tous ceux qui mangeaient de la chair étaient souillés. Et vous voyez, il y avait beaucoup d'oiseaux qui étaient souillés, qui étaient impurs. Pour quelle raison? Parce que même en ayant des ailes et en pouvant s'élever dans l'espace, ils descendaient sur la terre pour se nourrir de charognes. Alors, ces animaux-là, l'aigle y compris, qui se nourrit aussi de chair fraîche, quand il en trouve, eh bien, ces animaux-là étaient impurs, même s'ils avaient des ailes. Je ne vais pas vous faire la liste de ces oiseaux qui sont appelés impurs et parmi lesquels j'ai cité l'aigle, comme on pourrait citer aussi le vautour. Mais il n'y a pas d'autres règles spéciales pour ces oiseaux. Il y a seulement une liste et on trouve 21 oiseaux impurs. Donc tous les autres pouvaient être considérés comme purs. Mais là, nous avons une liste que l'Israélite connaissait bien et il savait que de ces oiseaux-là, ils n'avaient pas à manger. Et parmi les insectes, ils sont tous déclarés, toutes ces bibites, impurs. Sauf un, la sauterelle. La sauterelle, parce qu'elle a des pattes et qu'elle saute. Alors, soyons des sauterelles, si vous voulez, hein, pour passer par-dessus certains obstacles. Et en dehors des sauterelles, tous sont impurs, donc les moustiques aussi. Et alors, avant de sortir de cette catégorie, que peut nous représenter alors ces oiseaux ailés, ces oiseaux purs? Qu'est-ce que c'est pour nous les ailes? C'est la foi. Hein? Alors, sachons mouvoir les ailes de la foi. Et il est dit que c'est en vain que le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Proverbe 1, verset 17. Si vous avez ces ailes de la foi, le filet du tentateur sera bien tendu devant vous. Mais si vous avez des ailes, vous passez par-dessus le filet. Sachez vous élever au-dessus des circonstances, sachez faire comme la sauterelle qui passe par-dessus l'obstacle. Et puis, souvenons-nous que si nous avons des ailes, c'est pour nous nourrir de ce dont le Père Céleste veut bien nous donner. Les oiseaux du ciel, les oiseaux purs, eh bien, ils reçoivent leur nourriture du Père Céleste. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et leur Père Céleste les nourrit. Recherchons nous aussi une nourriture auprès de ce Père Céleste. Demandons au Seigneur de nous délivrer de tous nos goûts charnels, parce qu'il y a des chrétiens qui ont des ailes, mais qui ont des goûts charnels. Et maintenant, je passe à la quatrième catégorie, les reptiles. Bien, les reptiles, selon l'Écriture, en manger était une chose abominable. On devait s'abstenir de tout ce qui rampe. Alors vous comprendrez ce que cela signifie pour nous. Gardons-nous d'être des rampants. Souvenons-nous que Satan a pris le corps du serpent pour tenter le premier couple au paradis. Et tout ce qui rentre maintenant est sous la malédiction. Alors, ne soyons pas non plus des rampants. Ne soyons pas des petites souris non plus. Oh, les petites pattes, et ça court partout. Et ça entre partout, ça met son museau partout. Gardons-nous d'être des rats, des souris. Il y a des chrétiens rats, et des chrétiennes souris, peut-être. Gardons-nous de tout cela, de tout ce qui rentre. Alors, je voudrais simplement vous dire que toutes ces distinctions que je viens de faire prennent fin quand? Après l'œuvre de la rédemption. Dieu s'est servi des animaux pour enseigner au peuple d'Israël à distinguer entre ce qui était pur et ce qui était impur. Mais une fois que Jésus est venu pour racheter l'humanité tout entière, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que Pierre, qui était un homme qui observait scrupuleusement toute cette loi de Moïse et qui ne se serait jamais souillé en mangeant un animal décrété impur, quelle est la vision qui le bouleverse lorsqu'il est à Joppé chez Simon le corvoyeur et que, ayant faim à l'heure de midi, il demande qu'on lui prépare à manger, et alors tout à coup, il a une vision, il voit une nappe qui descend du ciel, chapitre 10 du livre des Actes. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui disait « Corneille ». Ah non, mais pardon, je parle là de Corneille, je m'excuse. Le lendemain, donc, verset 9, de la vision de Corneille, comme les envoyés de Corneille étaient en chemin, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Et il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Et il y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Vous voyez de nouveau cette classification qui est faite. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme soulier. » C'est cela qui rétablit l'équilibre, comprenez-vous? Il faut lire la Bible tout entière pour ne pas devenir des sectaires qui partent sur une vérité. C'est vrai qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs, mais regardez ici, il y a le rétablissement. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme soulier. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Et c'est ainsi que Dieu enseigne maintenant Pierre à ne plus regarder, à ne plus observer strictement ces distinctions extérieures, mais il comprend que c'est une séparation morale dont il était réellement question. Et il va chez le païen Corneille sans hésitation et il peut dire « Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme soulier ou impur ». Et je lirai encore un autre verset pour que le rétablissement soit bien complet, au chapitre 4 de la première épître à Timothée, parce que je voudrais que vous soyez enseignés dans la parole avant que nous nous essayons de recevoir des instructions de tous ces animaux. Chapitre 4 de la première à Timothée, Paul dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé de bon, a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Eh bien, voilà l'attitude que nous devons avoir maintenant quant à toutes ces prescriptions. Mais reconnaissons qu'elles avaient une valeur pour les Israélites et qu'elles ont encore une valeur littérale quant à l'hygiène, quant à l'alimentation. Il y a des distinctions à faire, et si nous les faisons, nous nous en porterons bien, car ce que Dieu avait prescrit, il l'a prescrit pour le bien de son peuple. Mais en terminant, le verset que j'aimerais vous laisser, c'est cette exhortation de l'Apocalypse au chapitre 22e. Verset 10e. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. De cela, nous aurons toujours besoin. Nous voulons prier. Ô Dieu, nous sommes dans un monde où règne la corruption et la souillure, et tu nous appelles à y vivre dans une séparation totale de tout ce que tu ne peux pas approuver. Donne-nous d'être des hommes et des femmes dont les pensées ont été formées par l'Écriture sainte et qui savent recevoir de toutes les pages de ta parole, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, une instruction qui s'applique à nos cœurs et à nos consciences, et que nous devenions réellement de ces hommes et de ces femmes qui possèdent un discernement spirituel pour s'approprier les choses non pas simplement qui sont bonnes, mais qui sont excellentes, les choses les meilleures, afin que nous puissions grandir et croître à ta louange et à ta gloire et exceller en toutes choses, dans les bonnes œuvres, afin que ce cantique qui a été chanté devienne une réalité, que nous ressemblions de plus en plus à Jésus et à Jésus seul, proche de toutes les âmes,
mais séparés de toute souillure pour la seule gloire